Les voix de l'écho.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les voix de l'écho du mercredi 24 juin 2026. Aujourd'hui, je vous propose une émission qui nous emmène loin du bruit, loin de l'agitation, loin des agendas surchargés, des notifications permanentes et du rythme parfois étouffant du quotidien, direction le désert. Le désert, c'est une image forte. On pense aux dunes, au sable, à l'horizon, à la chaleur, aux nuits étoilées, au silence. Mais le désert, ce n'est pas seulement un paysage spectaculaire, c'est aussi une expérience, une rencontre, un territoire et peut-être surtout être avec les autres et soi-même. Et pour m'accompagner dans l'émission du jour, notre spécialiste de l'assertivité, Alexis Desjeux. Bonjour Alexis, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Yves, bonjour chers auditeurs. On va parler de vacances et d'anticipation, un duo gagnant pour cultiver son assertivité.
Alexis, on vous retrouve d'ici 10 à 15 minutes pour votre chronique. Et également en studio avec nous, le chef Hervé Chéneau. Bonjour chef, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Yves, bonjour à tous. Et bien écoutez, aujourd'hui je vais vous parler d'un grand chef qui vient de fonder un bien beau programme, ça s'appelle The Chef dans votre cuisine.
On retrouve votre chronique en deuxième partie d'émission. Dans un monde où tout va vite, où l'on cherche souvent à remplir le vide, le désert nous invite à faire l'inverse. Ralentir, marcher, observer, écouter, accepter de perdre certains repères pour en retrouver d'autres. Mais pourquoi partir dans le désert aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on va chercher dans ces grands espaces ? De l'aventure, du dépassement, une forme de déconnexion peut-être ? Une réponse à une période de vie ou simplement une autre manière de se sentir vivant ? Alors nous allons parler de voyage, d'aventure, de marche, de silence, de préparation, d'accompagnement, mais aussi de ce que le désert peut révéler chez celles et ceux qui acceptent de s'y confronter. Alors, est-ce que le désert est un lieu que l'on traverse ou une expérience qui nous traverse ? Chers auditeurs et auditrices, en cette période de canicule, le sujet d'aujourd'hui tombe à point nommé. Bienvenue dans cette nouvelle émission des Voix de l'écho.
Les Voix de l'écho. Une émission présentée par Yves Maguin.
Et donc pour parler de voyage dans le désert et pas que, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Daguien d'Aventurium. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Merci beaucoup d'être ici dans le studio de Radio G. Alors Stéphane, avant de parler de désert, j'aimerais commencer par vous. Qui êtes-vous et comment vous présentez-vous ?
Eh bien déjà, merci pour l'invitation et c'est avec joie que je suis avec vous. Comment je me présente comme un explorateur peut-être, et j'ai eu le plaisir de voir Hervé arriver, peut-être un explorateur du cœur, même si son cœur est de travers sur son joli t-shirt, le moment est venu pour remettre le cœur dans le bon endroit.
Et donc, quel est votre parcours en fait avant Aventurium ? Quel a été votre chemin avant cette création ?
Mais écoutez, avec ce premier souffle sur cette vie, chacun chemin faisant, en fait, j'ai d'abord été dans une vie professionnelle de salarié, et puis à partir de 2005, j'ai créé une société dans le monde de l'informatique. Ça m'a permis de vivre le monde de l'entreprise, de l'économie, de le découvrir. C'est vrai que je venais pas de cette culture-là. Donc c'était une rencontre au travers de mes élans, de mes engagements, assez animé par le sport, les projets, c'est quelque chose qui m'a toujours animé. Et en même temps, le parcours m'a permis de rencontrer des personnes qui ont fait que j'ai été créateur. Puis en 2008, on a racheté une société en Vendée, donc j'ai découvert de nouveaux territoires. Et il y a une similitude puisqu'en fait, la création, l'association professionnelle s'est fait au travers d'une rencontre autour d'un mot, le désert. Je sortais d'une expérience en 2004, c'est ma première rencontre avec le désert, c'était une épreuve du championnat du monde des rallye raids en moto. Et je vais sortir cette expérience évidemment bouleversée, oui aussi, et en même temps hypnotisée. Et de retour, je rentre en clientèle et lors du rendez-vous, ben, on prend conscience que mon interlocuteur est aussi passionné de désert et la magie va opérer ainsi. Donc, ce qui fait que là, on va partir sur un projet, c'est venu nourrir quelque chose. Et j'ose dire, et on y reviendra peut-être sur le désert, mais que ça a vraiment contribué à un regard différent sur la vie. Et donc après, le chemin a continué son œuvre avec des expériences différentes jusqu'en 2014, créé Adventurium au sein de ma société informatique. Puisque je passais pour un dirigeant dans les réseaux un peu atypiques, parce que je me formais à la sophrologie, à l'hypnose, à la PNL, aller chercher des outils pour peut-être mieux comprendre l'humain, manager autrement, intégrer de la vie, de l'élan. Et j'ai toujours eu cette soif, en fait, peut-être l'appel du désert, c'est cette soif intérieure d'aller trouver des clés, etc. Et aujourd'hui, bon, on en reparlera aussi, mais j'ai peut-être un peu un regard différent sur ces soifs d'outils, puisque l'outil principal est peut-être d'une manière très simple et pas très loin.
Ouais. Alors Adventurium, c'est un nom qui évoque immédiatement l'aventure. Pourquoi vous avez choisi ce nom en fait ?
Alors c'est vraiment une composante autour de l'aventure et des hommes avec un grand H, puisqu'en fait le féminin nous donne cette vie sur Terre, on peut lui rendre grâce. Donc hommes et femmes, yom, donc c'était vraiment l'association de l'aventure et de l'humain. Pour aller à la rencontre de soi, peut-être ces marches extérieures, mais ces marches intérieures, et devenir aujourd'hui ma proposition, c'est clair qu'elle s'adresse à des particuliers, à des professionnels, mais dans mon entreprise, je pense qu'on a, en tout cas moi, j'ai à cœur d'aller vers un management humaniste, porter un regard différent sur le management et mieux se connaître et mieux connaître les autres, c'est assurer une performance humaine donc économique et un mindset à inverser.
Ouais. Vous vous présentez comme un révélateur de potentiel humain. Qu'est-ce que ça signifie concrètement?
Peut-être ambitieux avec le recul. Cette carte a été faite. Hein. Le temps va venir, Yves, de la refaire. puisque c'était de 2016 quand la société est née officiellement. En tout cas, au-delà du mot, parce que c'est toujours le même sujet, c'est qu'on peut venir poser une sémantique, on peut venir poser un référentiel. Mais je crois, pour être vraiment sincère, qu'à un moment donné, c'est d'aller toucher en soi ses ressources dans les différents centres. Mmh. Et c'est vrai que cette approche autour de la préparation mentale, par exemple, on va parler d'un centre mental, d'un centre émotionnel, un centre corporel. Eh bien, lorsqu'on va aller dans une lecture transversale, on va se découvrir avec ses propres ressources. Et donc, derrière cette phrase qui vraiment me fait sourire aujourd'hui, je me dis, c'est peut-être ça que j'allais proposer, c'était de faire découvrir et de révéler évidemment en soi. Moi, je suis pas un magicien. Je dis toujours que les clés, c'est la personne qui les a. En revanche, au travers de protocoles, de techniques, etc., etc., qui sont pas l'essentiel, mais on va aller faire cheminer la personne pour qu'elle assure des déblocages. Et à partir du moment où elle prend conscience de son amplitude, consciemment ou inconsciemment, eh bien là où frein, croyance limitante, blocage, etc., on va libérer quelque chose. Et il y a rien d'autre de plus extraordinaire que la personne puisse rayonner qui elle est. De ce puits son centre intérieur, ce cœur.
Carrément. Et alors du coup, justement, la création d'Adventurium, c'est pas simplement une création d'entreprise, on pourrait dire que c'est carrément une mission de vie, finalement.
Ouais, je l'entends. Ouais, ça me parle.
Ok.
Non, mais j'ai rien à ajouter là-dessus. En fait, je pense que c'est un peu comme... les Africains ont un proverbe, en fait, la vie c'est comme des chemins entremêlés de vaches. Mais derrière ça, il faut y entendre différentes choses. Et peut-être que jusqu'à maintenant, et en tout cas mon envie, mon élan, c'est de vraiment pouvoir moi-même découvrir de nouvelles choses, de grandir, de s'élever. Et qu'à un moment donné, bah, le chemin de la vie nous a amené à vivre des choses. Et qu'est-ce que j'en fais? Et comment je rebondis? Et comment je vais développer autre chose? Et en ce sens, ça, je trouve ça dynamisant pour apporter un nouveau regard, un nouveau éclairage. Et on voit bien entre... un flot qui peut nous emmener vers des basses énergies et qu'à un moment donné, si on va chercher autre chose, dans quelque chose qui nous anime, qui donne beaucoup de foi, je vois des jeunes stagiaires ici que j'encourage à vivre pleinement leur vie dans leur élan. J'ai aussi, et je suis un papa de trois filles, et c'est de leur dire, mais c'est possible, et il faut regarder, il faut aller chercher en vous ce qui vous anime, vibrer votre vie et ça va y aller, quoi.
Ouais, j'adore. Je vous propose de faire un premier jeu dans l'émission, Stéphane.
Oula.
Alors pour ce premier jeu, nous allons faire votre boussole métier. L'idée est très simple. En fait, j'ai pris les points cardinaux pour essayer de mieux comprendre votre métier, votre posture, votre matière d'accompagner finalement. Peut-être aussi ce qui vous guide dans le désert ou en tout cas dans votre parcours professionnel. Est-ce que vous êtes prêt ?
Prêt.
C'est parti. Alors, dans votre activité, quelle est votre étoile polaire?
L'étoile polaire.
Qu'est-ce qui vous guide?
Ah, la question...
Alors, on y va fort, là.
Ouais, ça démarre très fort.
Stéphane, c'est vraiment dur. Oui, c'est vraiment difficile à répondre parce que Yves est un champion de la question.
Je m'y emploie. Aujourd'hui, encore une fois, je pense qu'il y a un cheminement. Si je reviens là sur le côté intuitif, le cœur, en fait. Le cœur.
Ouais. Ok. Quand on part dans le désert, on perd beaucoup de repères. Enfin, j'imagine, en tout cas. Mais vous, qu'est-ce qui vous permet de rester ancré et stable, justement, avec les personnes que vous accompagnez?
D'avoir, c'est un peu comme un archer, en fait. Dans cette voie de l'archer, où, en fait, on va avoir l'outil en main. On va avoir la flèche. À la cible, et c'est de garder le cap. Et cette métaphore, je la trouve excellente, parce que le désert, en fait, c'est fait pour se perdre. Se perdre, c'est pour mieux se retrouver. Mmh. C'est quelque chose que j'expérimente, puisque, encore une fois, l'échelle de chiffres dans ce monde égotique ou d'Excel n'a aucun intérêt. Je lamine moi-même mon ego et qui peut se manifester sur d'autres plans. Mais j'ai expérimenté 44 déserts, donc ça me donne une expérience. Ce que je dis toujours en sortant de ces déserts-là, c'est ça nous rend encore plus humbles et plus... comment dire, plus modeste, parce que c'est lui qui nous laisse passer. Et en acceptant de se perdre dans ces lieux, eh bien, on se retrouve. C'est tout le paradoxe. Et là où on a l'impression qu'il n'y a rien, eh bien, on touche le tout. Et peut-être une dimension supérieure.
Ouais. L'Est, c'est un peu le lever du soleil, le commencement. Qu'est-ce que vous voyez émerger aujourd'hui chez les personnes qui viennent vers vous à la suite d'une partie dans le désert?
Eh bien, ils peuvent reconnecter vraiment comme une flamme intérieure qu'ils auraient oublié d'observer, de voir, mais qui est là, et peut-être qui, sur certains plans, a besoin d'être ravivé, en fait. Mmh. Et je suis convaincu que si on est porteur, on le voit partout dans l'expérience de la cuisine ou du sport. Si à un moment donné, on a un entraîneur national comme Deschamps qui emmène un groupe, ben il est porté par une flamme. Après, on adhère, on est tous meilleurs entraîneurs que lui, mais en même temps, lui, son parcours fait qu'il y a du résultat. Mais on voit bien qu'il est animé par une flamme intérieure. Et je pense que cette flamme intérieure, c'est celle sur laquelle on peut se poser, respirer avec des 3 S, seul, en silence, pour donner du sens.
Ok. Qu'est-ce que les participants viennent le plus souvent chercher et ce qu'ils laissent surtout en fait derrière eux, c'est plutôt de la fatigue, de la pression, de la peur, une ancienne version d'eux-mêmes?
Un petit préalable, c'est qu'en fait déjà lorsque je fais des propositions de learning expédition, que ce soit ici ou ailleurs, ça peut être sur les bords de Loire, hein, tout proche d'ici ou dans des communautés religieuses ou dans des écuries, dans le monde du cheval. Moi, ce que j'ai à cœur, c'est de pas ouvrir des parenthèses pour refermer. C'est-à-dire que je viens semer quelque chose et qui va prendre la temporalité nécessaire, parce qu'on a des rythmes différents, mais que dans ce rythme, en fait, la personne puisse repartir avec quelque chose qui est planté et qui va fleurir comme une jolie fleur dans ce désert où il peut y avoir un peu d'aridité. Et en fait, dans le cheminement ou dans les raisons qui motive les personnes à venir, il y a vraiment une grande, grande, grande diversité. Par contre, ce que j'observe là d'une manière un peu plus temporelle, depuis 12 ans que je fais cela, c'est que là, je reprends ma casquette de mathématicien ou de conteur, pas dans le bon sens du terme, pour raconter de belles histoires, mais c'est que là, ce qui ressort, c'est je rencontre, j'ai encore démarré 2 coachings hier, des gens qui sont perdus, en fait. Perdus. Et c'est ça qui m'interpelle aujourd'hui.
Ouais.
Et en fait, le message que j'ai envie de passer, c'est: mais si tu ne vas pas à la rencontre de toi-même, comment veux-tu te retrouver? C'est pas la société ou c'est pas l'extérieur qui va te ramener. Donc trouve ta boussole avec tes codes à toi. Et évidemment que ça peut parfois être difficile. Je suis le premier à avoir été traversé face contre terre. Et en même temps, dans cette émotion-là, c'est là où on a la capacité de se dépasser.
Ouais. Et au fond, quand on enlève finalement le décor, le sable, les kilomètres, l'aventure, les mots, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut te faire près de chez nous, en Anjou, sur les bords de Loire, par exemple?
C'est le cas. Encore une fois, là, je l'ai expérimenté à Notre-Dame-des-Gardes, à Chemillé. La moitié de mes coachings se font en marche, parce que je suis convaincu quand on va travailler au-delà des outils, c'est le fait d'être à côté de quelqu'un, de cheminer. Évidemment, on est dans le corps. Alors, en fait, c'est juste du bon sens. Mais je le rappelle, c'est que votre première nourriture, ma première nourriture, notre première nourriture, c'est la respiration. Si je respire, je vais déjà à la rencontre de moi-même. Encore faut-il se poser. Et là, on va avoir tous les bénéfices dans le corps. On va avoir un diaphragme qui va se détendre. On va avoir un rééquilibrage sympathique, parasympathique. Et donc, proposer. Et dans le monde entier, pas dire que je prêche, mais j'y vais un peu quand même fort, puisque je l'expérimente avec les dirigeants, les comités de direction, les équipes projet que je peux avoir, et j'inclus toujours de la marche, comme Sophie hier soir, puisque la température était assez élevée, on s'est retrouvé dans le cercle un peu plus, mais en même temps, on a voyagé. Et donc, autour, en fait, le sujet n'est pas... Il y a un bénéfice à aller dans le désert parce qu'on va prendre un avion et que du coup, à un moment donné, même si on veut sortir son téléphone et ouvrir le canal, eh bien, on n'aura pas de réseau. Donc moi, j'arrive à trouver des solutions et je le propose évidemment d'une manière constructive. Mais en même temps, je suis quelqu'un de dynamique et un peu leader. Donc ça m'arrive de créer des espaces et des gens me font confiance et ça marche très très bien. Ou pendant 1, 2 ou 3 jours, on va prendre les téléphones, on les met dans une boîte et on les laisse. Donc je crois plus en cette qualité de présence et après que ce soit à côté de chez soi, dans son jardin ou un peu plus loin, il n'y a pas de différence.
Ouais. Merci beaucoup Stéphane pour ces très très belles réponses.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors pour beaucoup, c'est bientôt les vacances estivales et leurs préparations peuvent être compliquées dans notre monde qui va vite et parfois anxiogène pour certains. Cela peut tendre les relations humaines, mais comment faire en sorte de bien communiquer ensemble et d'anticiper nos vacances? C'est le moment d'écouter la chronique d'Alexis Desjeux.
Mieux vivre ensemble avec assertivité, une chronique d'Alexis Desjeux.
Bonjour chers auditeurs, quel que soit votre genre, obédience et autres croyances toutes personnelles. Alors, vacances et anticipation, un duo gagnant pour cultiver son assertivité. En fait, je vous ai déjà parlé de ce sujet le 4 septembre 2024, rappelez-vous.
Ça date,
à peu
hein.
près à la même heure. Bah oui, ça commence à dater, mais je vous confie un secret. Les vacances, c'est pas du luxe, c'est du carburant. On se recharge, on s'apaise. Et on revient plus serein pour défendre ses idées sans écraser personne. Alors, vacances égale assertivité, même si vous êtes un hyperactif ou un accro au taf, j'avais donné les clés, hein, vous réécouterez la séance du 4 septembre, même pour les accros au taf, je vous avais donné 2-3 clés. Sauf que j'ai zappé un truc. Le plus dur, c'est pas de se reposer, le plus dur, c'est de partir. Mais quand je dis partir, c'est vraiment partir, exactement comme l'évoque Stéphane. Hein. Fermez les yeux 2 secondes avec moi. On est jeudi soir. La valise est presque bouclée. Et là, le mail qui tombe, ou le SMS. Désolé de te déranger, mais ce serait possible juste un petit dossier avant ton départ. Et votre cœur se serre. Vous le sentez, là, ce petit pincement. Moi, je le connais par cœur. Et avant, je disais, tout en serrant les dents, oui, je vais le faire, ce petit dossier, avant de partir. Aujourd'hui, j'ai un réflexe un peu différent. Je pose une question. C'est quoi ta contrainte exactement? C'est pour quand et pourquoi cette date-là? Parce que, soyons honnêtes, en général, on sauve pas des vies. Hein. Alors, surtout moi, hein. Moi, je suis dans la com, je sauve aucune vie, quoi. Donc, 9 fois sur 10, en creusant un petit peu, quelques minutes avec son interlocuteur, on découvre que ça peut très très bien attendre votre retour.
Oui, mais Alexis, refuser comme ça, là, c'est pas risqué, non? On peut pas passer pour quelqu'un qui s'investit pas ou perdre un contrat?
Bah oui, c'est sûr, Yves, c'est ça le mot, le risque. Ouais, mais en fait, le vrai risque, moi, je vais vous le dire, hein, c'est quoi le vrai risque? En fait, vous êtes cramé. Donc, comme vous êtes cramé, vous allez produire de la... Ça démarre par un M, parce qu'on est à l'antenne, et ça finit par un E. Vous allez être plus irritable. Vous allez bâcler tout ce que vous auriez soigné d'habitude. Alors, si financièrement, vous n'aviez pas le choix, bah oui, je peux comprendre la contrainte. Hein. Ne jouez pas les héros. Proposez un compromis. Bon, ok, on se voit demain pour poser les bases du projet et caler un planning serein. Ce sera le dossier prioritaire à mon retour de congé. Voilà, là vous êtes assertif, vous ne fuyez pas, vous ne vous sacrifiez pas, vous négociez. Alors mon exercice de la semaine, si ça vous branche, en 2 temps. D'abord, vous pouvez anticiper. Vous envoyez un mail à vos clients, je serai pas là entre telle date et telle date. Alors, pensez à anticiper vos demandes. Bah, sinon, ça sera à mon retour de vacances et je vous répondrai bronzé et plein de bonne humeur. Ensuite, posez un planning clair. Parce que, comme le dit si bien un vieux proverbe persan, dont je n'ai pas retrouvé l'auteur, mais c'est pas très grave. Le sage réfléchit avant d'agir. anticiper dans notre société du tout, tout de suite, immédiatement, voire vraiment, c'était pour hier, c'est pas de la science-fiction. C'est juste prendre le temps de poser les choses pour partir l'esprit léger. Et croyez-moi, la sérénité, c'est le plus beau des leviers de bien-être et de réussite. Alors, parce qu'une vraie déconnexion, ça ne se mendie pas, ça se décide. Allez, prenez soin de vous et de vos proches, faites les choses avec plaisir, audace et envie, si ça vous branche. Belle journée à vous. Et à notre invité, Stéphane, est-ce que tu peux me dire la dernière fois que t'es parti, et est-ce que t'as vraiment coupé ou est-ce que t'as gardé un œil sur tes mails quand tu pars en vacances?
Eh bien, je peux véritablement couper, c'est le cas. Et d'une manière assez facile, en fait, hein. Je le mets vraiment en mode avion et je coupe.
Chapeau.
Merci beaucoup, Alexis, pour votre chronique.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, quand on dit voyage dans le désert, chacun projette beaucoup d'images. Pour vous, Stéphane, c'est quoi le premier mot qui vous vient?
Sable. Premier mot.
Ok. Et alors pourquoi?
Parce que je pense que ça fait partie, justement, c'est très lié, c'est pas pour reparler de la méthode, mais entre conscient et inconscient, inconsciemment, en fait, on a cette image des dunes, etc. Alors que les déserts, en fait, ils vont prendre mille formes. J'ai eu la chance de pouvoir marcher dans différents déserts sur cette planète. Et on l'évoquait un petit peu en préambule, il y a des déserts, évidemment, de sable avec les dunes magnifiques, mais aussi des déserts de pierre, mais aussi des déserts blancs. On va retrouver des températures importantes, mais dans les négatifs, et qui font vivre une autre expérience. Donc, il y a souvent c'est très relié finalement à nos sens, hein, ce fameux VACOG qu'on évoque en PNL, où on va avoir les cinq sens qui sont déployés, et en fonction de nos sens, eh bien, on va se faire une image ou une projection par rapport à un lieu. Donc ça, c'est toute une construction intérieure, et en même temps, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. C'est-à-dire que quand je vais expérimenter quelque chose de nouveau dans le Hoggar ou le Tassili en Algérie, là où j'ai pas encore emmené des personnes, mais j'ai fait mes repérages et je suis en mesure de le réaliser aujourd'hui, eh bien, on y va à nu, on va découvrir des espaces, on va avoir des codes différents, parce qu'évidemment, le désert d'Algérie, c'est pas les mêmes modalités déjà réglementaires par rapport à un Maroc où on est en plus en fluidité, mais c'est aussi d'autres accès, c'est des Touaregs, c'est une autre culture, et cette immersion, elle est importante. Et si je suis en train d'échanger avec dans cette rencontre, pour plager Christiane Singer, cette richesse de la rencontre, eh bien, quand je rencontre des Berbères, c'est pas des Touaregs. Quand je vais en Tunisie ou en Libye, c'est pas les mêmes environnements. Plein d'indicateurs, en fait.
Est-ce qu'il faut être sportif, aventurier ou déjà habitué au grand voyage pour vivre ce type d'expérience?
Absolument pas, dans ma proposition, et pour une raison très simple, puisque en fait, comme c'est un chemin pour aller à la rencontre de soi, aujourd'hui, vous voyez, j'entendais Alexis qui disait, pourquoi aller vite avec un gros point d'interrogation? C'est ça, en fait, c'est qu'est-ce qui m'impose d'aller vite? Donc, derrière ça, en fait, on va connecter la notion de rythme. Et donc, moi, aujourd'hui, dans mes propositions, si je suis avec mes amis sur l'Art des Choses, une cyclo qu'on a fait la semaine dernière, évidemment, là, on va être dans un rythme, une dynamique, puisqu'on est dans un champ sportif. Et en même temps, moi, quand je propose des cheminements dans le désert, c'est chacun à son rythme. Et la vie est assez étonnante, voire même curieuse. Parce que parmi mes participants, ceux qui allaient le plus lentement, il s'avère que le dernier jour, c'est ceux qui sont les plus rapides. J'ai même la mémoire d'une famille que j'ai emmenée pour aller à l'ascension du Mgoun à 4067 mètres, où parmi le panel, ils se reconnaîtront de participants, il y a un jeune homme de 27 ans qui se forme en école de cascade. Donc autant vous dire qu'un physique affûté, un cardio qui va bien, eh bien, parmi ceux qui n'ont pas pu accéder, lui n'a pas accédé.
Ah oui.
Donc vous voyez, on est bourré de croyances, de conditionnement, etc. Et comment je vais gérer en fait le projet pour partir d'un point A à un point B? Et à partir du moment où on est dans une logique d'activité et qu'on accepte de respecter son rythme, mais on passe partout. Je peux y faire un clin d'œil parce que ma mère aujourd'hui a un âge honorable de 86 ans, mais il y a 5 ans, je lui ai proposé de participer à une route du soir. Elle était inscrite et la vie fait que son compagnon est parti à ce moment-là, donc elle n'a pas pu venir. Mais à 81 ans, elle était en mesure de faire un parcours avec moi.
Ouais. Je vous propose, Stéphane, maintenant de faire une pause musicale dans l'émission. Nous allons écouter paradoxalement Speed de Zazie. On reparle de ce choix musical justement avec vous après Stéphane Adrien. Bonne écoute sur Radio G.
Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois.
Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Vous êtes toujours en direct sur Radio G à l'écoute de l'émission Les Voix de l'écho. Je suis toujours en compagnie de mon invité Stéphane Daguin d'Adventurium. Nous venons d'écouter Speed de Zazie. Stéphane, pourquoi avoir choisi ce titre musical ?
J'ai choisi ce titre en fait par rapport à... Alors le speed, je vois la dissonance en fait entre la volonté de connexion, de déconnexion. Donc c'est assez rigolo à observer. En même temps, je maintiens que si on accepte de se déconnecter, on va se reconnecter à soi-même et que du coup, dans son propre équilibre, on trouvera le rythme qui nous convient. Ça, c'est le préalable. Mais en fait, le désert, moi, en fait, puisque c'est le thème c'était l'élan que tu m'as proposé pour cette présence ici. En fait, en 2004, quand je croise les déserts, je suis touché en plein cœur. Mais je vais être le témoin clair d'une situation. Je suis avec ma 450 WRF Yamaha toute préparée. Et à un moment donné, je suis touché. J'arrête ma moto alors qu'on est en course. Et je fais des photos. Je vois, je contemple. Je suis touché en plein cœur. Et là, il y a un quad qui arrive, immatriculé 28, et qui me dit, mais qu'est-ce que tu fais? T'es en panne? T'as besoin d'aide? Et non, je faisais peut-être partie des poireaux, donc c'est-à-dire qu'on avait notre mal et on se débrouillait, donc on avait une sorte de solidarité humaine, et c'était beau à voir. Et je dis, non, je suis pas en panne, je trouve ça beau, quoi. Et sa phrase est limpide, il me dit, mais t'es un touriste, toi. Évidemment, il y a ce décalage entre je suis sur une course et on est vraiment au chrono, là, il n'y a pas d'autre sujet, et de cet arrêt. Mais le désert m'a touché en plein cœur. Et dans Speed, c'est ça que j'allais chercher, parce que je vous invite à relire les paroles de cette chanson. Parce qu'en fait, ça touche un peu, peut-être même beaucoup, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait que les gens soient perdus, mais où cours-tu comme ça? Ne sais-tu pas que le ciel est en toi? Encore Christiane. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est dans cette écoute-là à l'intérieur de toi. Donc, libère cet enchaînement que tu as dans ton cœur pour être qui tu es. Ça prendra quelle forme? J'en sais rien. Et ça va pas répondre à des pourquoi, des comment. Hier, parmi les dirigeants, il y en a un qui, voilà, je reste d'une manière anonyme, mais qui porte des projets d'entreprise et qui va chercher de la performance et qui, au travers de ses activités sportives sur lesquelles je peux aussi être connecté, bah, va passer beaucoup de temps sur la performance, etc. Mais on voit bien, il y a une quête, mais elle est dans le mental. Et qu'à un moment donné, il y a une alliance à faire entre notre volonté, notre mental qui pousse à pourquoi, comment, etc. et qui veut tout expliquer. Mais vous voyez bien que dans la vie, il y a des choses qu'on n'expliquait pas et qui se font. Donc ça veut dire qu'on est invité à une corrélation, une connexion entre tête et cœur. Et que, est-ce que je laisse la main? On pourrait reprendre Teilhard, en fait. Est-ce que je suis un être incarné qui vit une spiritualité, ou est-ce que je suis un être spirituel qui vit une vie incarnée? Et c'est une vraie question sur laquelle j'invite vraiment à réfléchir. Et le désert, en tout cas, m'a fait beaucoup réfléchir sur ça. Donc Speed, c'est ça, c'est cette ouverture de cœur, c'est ce que ça a venu toucher en moi, jusqu'à couper cette moto et d'être... en transcendance face à ce spectacle.
Ouais. Alors, vous avez développé la route du soi. Comment vous définiriez un peu cette approche pour ceux qui ne la connaissent pas?
Alors, Adventurium aujourd'hui, c'est formation, learning, expédition. Et je suis formateur pour le CJD France, par exemple. Donc, j'ai du feedback par rapport à des formations de dirigeants. Et puis, le troisième axe, les learning, où pour les particuliers, j'ai nommé ça la route du soi. Et en fait, les deux premiers, formation ou coaching, c'était vraiment quelque chose que j'ai construit dans ma tête. La route du soi, c'est un dimanche, je me réveille, et je vois la route du soi. Je l'ai eu comme un message clair. C'est pas quelque chose de réfléchi, structuré. Donc ça arrive comme ça, c'est un cadeau, je le prends. Et derrière, la déclinaison, bah, évidemment, je fais avec ce que j'ai, ce que je suis, dans cet instant-là. Et en tout cas, la volonté et la proposition, c'est d'aller sur la route du soi pour travailler sa confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. Mmh. Et donc, au travers d'un chemin, d'un lieu, de nos berbères qu'on va rencontrer, parce que ce sont de vrais berbères qui vivent sous les tentes et qui vont nous montrer la simplicité, et qui vont nous montrer l'authenticité, qui vont nous montrer la joie dans cet instant, pas celui que... Je suis toujours surpris à la sortie du Djebel d'arriver, de voir des écoles où les enfants sont dégagent de la joie, tout simplement. Et moi, quand je vois mon école le lundi matin, où les petits sont... Mes enfants, ils sont passés, mais je vois des visages fermés, etc. J'ai le clash entre les deux versions que je vois, ça vient frapper fort, en fait.
Comment vous arrivez à trouver la bonne distance, justement, entre guider les personnes, mais en même temps, finalement, les soutenir et les laisser chacun vivre leur propre chemin?
Alors moi, je suis un fan d'un petit book qui s'appelle Le Maître intérieur sur Chemin de Sagesse, édition Chemin de Sagesse. Et je suis convaincu que le maître intérieur est en chacun. Donc je ne sais pas. C'est la position basse de Milton Erickson. Moi, je peux pas savoir pour les autres. Et donc, c'est de laisser la personne. Et qu'est-ce qui va aider? Bah, c'est peut-être un questionnement. C'est peut-être des silences. Il n'y a plus de silence aujourd'hui. Sinon, s'il n'y a pas de silence, t'as pas d'écoute. C'est la présence. C'est des choses aussi simples que ça. En retour, en feedback, j'avais eu Claudie Antoine, que j'avais emmené des Transports Antoine en Vendée, là, qui me disait, en fait, c'est le questionnement, c'est une forme de questionnement. Après, pour être clair avec vous, c'est-à-dire que dans ce moment-là, ou quand je suis en présence, c'est comme si à un moment donné, je ressentais la personne par quoi elle peut être traversée, que ce soit sur un plan mental, émotionnel, et que du coup, dans dire à la personne, mais je sens t'es traversé, je les ai peut-être même moi-même traversé, c'est peut-être pour ça que j'ai été livré pour faire ça aujourd'hui. Et c'est de se dire, en confiance, je marche à tes côtés et puis on va découvrir. Et le champ des possibles va s'ouvrir.
Je vous propose de faire un deuxième jeu dans l'émission. C'est parti. deuxième jeu, nous allons faire un vrai-faux express. Vous devez simplement répondre par vrai ou faux. Est-ce que vous êtes prêts?
Ready.
Le désert est un lieu vide.
Faux.
Il faut être un grand sportif pour partir marcher dans le désert.
Faux.
Dans le désert, le plus difficile n'est pas toujours la chaleur.
Frais. Là, j'ai joué. J'ai mis des deux.
J'ai entendu.
En cette température estivale.
Voilà. Le silence du désert peut parfois être plus impressionnant que le paysage.
Vrai.
On part souvent dans le désert pour se couper du monde, mais on y trouve surtout du lien.
Vrai.
Un voyage dans le désert se prépare autant mentalement que physiquement.
Vrai.
Le désert oblige à ralentir.
Vrai.
Dans un groupe, le désert révèle très vite les personnalités.
Je ne joue pas, mais oui et non, parce qu'en fait, révèle des personnalités, on voit bien qu'en fait, c'est pas le sujet. Si je suis connecté à cette... Je dois répondre vite, mais c'est pas possible. Donc je prends... En fait, personnalité, qui dit personnalité, dit personnage, dit... Ego dit quelque chose qui se manifeste. Mais est-ce que j'ai des masques? Est-ce que j'ai des armures? Donc cette personnalité, est-ce que c'est moi-même? Donc je peux pas répondre à cette question. Est-ce que ce que tu vis est vraiment l'être profond que tu es?
L'aventure commence vraiment quand on accepte de perdre ses repères.
Vrai.
Le désert ne donne pas forcément des réponses, mais il pose les bonnes questions.
Vrai.
On peut vivre une expérience forte dans le désert sans chercher une transformation personnelle.
Vrai.
Et enfin, revenir du désert est parfois plus difficile que d'y partir.
Faux.
Merci beaucoup pour ces réponses, Stéphane.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Est-ce que vous aimez manger et cuisiner, Stéphane?
J'adore, je suis un épicurien.
Ah bah justement, si je vous propose un chef à domicile par exemple, pour vous concocter une expérience culinaire et conviviale incroyable, j'imagine que ça peut vous plaire.
On va prendre rendez-vous.
Et bien justement, c'est le moment d'écouter la chronique du chef Hervé Chéneau.
De la fourche à la fourchette, une chronique du chef Hervé Chéneau.
Alors, pour vous parler de moi, Yves et puis notre cher invité Stéphane, le fondateur de The Chef dans votre cuisine, c'est moi. Quand la cuisine redevient une fête, 40 ans de cuisine, 20 ans de formation, une retraite que je n'ai pas acceptée ou supportée plus que quelques mois. Donc j'ai tout plaqué pour lancer The Chef dans votre cuisine, une expérience immersive, joyeuse et profondément humaine qui réinvente l'art de se retrouver autour d'un plat. Du tablier de prof au tablier de chef chez vous. J'ai jamais vraiment quitté la cuisine, et la cuisine ne m'a jamais vraiment quitté. 40 ans de métier, dont plus de 30 ans passés à la CCI de Maine-et-Loire, l'une des plus importantes structures d'apprentissage des Pays de la Loire, avec près de 4000 apprentis par an. Un parcours entier consacré à transmettre, à accompagner, à créer du lien entre les jeunes et leur futur métier. Puis vient 2024 et la retraite, mon Dieu, une descente aux enfers. C'est ce que je dis sans détour. Moi qui avais toujours du monde dans mon bureau, dans le quotidien était tissé de rencontres, d'élèves à orienter, d'entreprises à accompagner, se retrouver soudainement sans ce flux humain qui me nourrissait. 3 mois, voire plus, d'évidence s'impose. Allez, faire de la cuisine là où il y a le plus de sens, chez les gens, dans leur cuisine, avec eux. Donc The Chef dans votre cuisine est né de cette conviction simple et lumineuse. La meilleure cuisine n'est pas celle des grands restaurants, c'est celle que l'on prépare ensemble avec la recette de votre grand-mère, les mains dans le bouillon et des rires plein la pièce. J'insiste bien sur les rires plein la pièce. 6 à 8 heures pour cuisiner ensemble une recette de famille. Vous allez me dire, une recette, mon Dieu. Oui. L'expérience The Chef dans votre cuisine commence bien avant le jour J, 1 à 2 semaines à l'avance. Eh bien, je passe dans votre cuisine, pas pour vous juger, mais pour comprendre. Organisation du réfrigérateur, état du congélateur, agencement des plans de travail, autant de petits détails du quotidien sur lesquels j'apporterai des conseils concrets, pratiques, bienveillants. L'idée, c'est de proposer des choses plus simples dans le quotidien, jamais de critiquer. Le jour de l'atelier, 5 convives sont réunis chez l'habitant. L'idée est de réaliser une seule recette, le plat chaud avec garniture, le repas signature de votre grand-mère, par exemple. Celui qui vous tient à cœur et qui évoque un souvenir fort. J'insiste bien sur le souvenir fort. Les invités apportent les entrées et les desserts. Moi, avec le groupe, je me consacre entièrement au plat principal. Mais avant de s'atteler au fourneau,
cap sur le marché ou le supermarché du quartier pour choisir ensemble les bons produits de saison locaux. J'explique, je commente, je transmets. Et parce qu'on peut vite se retrouver saturé d'informations, une pause café ou un petit verre de vin blanc, un petit chardonnay en terrasse s'impose pour souffler, pour se retrouver déjà un peu. De retour en cuisine, j'offre un tablier à chacun des participants, de couleurs différentes parce que c'est très lumineux et que j'ai été beaucoup inspiré par les jardins de Majorelle à Marrakech. Le temps est précisément ce que j'attends, cherche également à faire savourer. Je remets de la conscience dans les taillages, les cuissons, les odeurs qui montent. Vous les sentez déjà, les odeurs, Yves ? Pendant les temps de cuisson, eh bien, je révèle deux autres dimensions de ma personnalité, le comédien et le mélomane. Depuis 10 ans, je pratique le théâtre d'improvisation. Je mets délibérément ce talent au service de l'atelier pour créer une atmosphère décalée, joyeuse, inattendue. La musique vient compléter le tableau. Un morceau de piano, un rythme entraînant, un truc bien fun, David Guetta par exemple, pourquoi pas, et le chef qui commence à danser autour de la table. J'ai mis des poches kangourous sur les tabliers que j'offre à la fin de la journée. Pas pour les recettes, mais pour les mouchoirs. On rigole toujours beaucoup pour déconnecter. Quand vient l'heure de la table, de passer à table, l'expérience prend une nouvelle dimension. Une belle table est dressée ensemble. Un caviste arrive, accorde le vin au plat et mange avec le groupe. Un fleuriste compose une pièce florale sur mesure et s'assoit lui aussi. 8 convives se retrouvent autour de la table après le repas. Vaisselle comprise, faite en commun parce que ce moment-là fait aussi partie de l'expérience. Je repars en laissant derrière moi un tablier floqué, The Chef dans votre cuisine et de bons souvenirs donc. Mais ça ne s'arrête pas là, mon cher Yves. La cuisine comme antidote à une société qui ne prend plus le temps. Derrière le concept, il y a une conviction profonde qui dépasse largement la gastronomie. On est en train de perdre la valeur de la table. L'ado mange dans sa chambre, le portable à portée de main. On ne se retrouve plus vraiment. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est un besoin réel. Ce que je veux recréer, c'est cet espace rare où les générations se mélangent, où les langues se délient naturellement autour d'une préparation, où l'on partage quelque chose de vrai. Mes propres petits-enfants me confirment à chaque marché, quand on prépare ensemble, on mange ensemble. Dans les cuisines des restaurants, je pourrais aussi venir, fort de 20 ans de formation et du réseau de près de 1000 anciens élèves que j'ai accompagnés au fil des années, eh bien, j'ai développé une seconde offre, investir le jour de fermeture les cuisines professionnelles de restaurants tenues par d'anciens apprentis. Des équipes d'entreprise, des commerciaux, des collaborateurs pourront y être une expérience sur mesure, dans un espace qu'ils n'auraient jamais eu l'occasion de découvrir autrement. Et pour créer l'événement, une grande table dressée en salle, toute lumière allumée pour attirer la curiosité des passants. Et bientôt sur scène à Angers, il est fou ce mec. Mais le rêve le plus fou quand même reste à venir. Je veux monter sur scène un show culinaire et théâtral au centre des congrès d'Angers, c'est précis en plus, qui peut accueillir jusqu'à 1200 personnes. Alors ça c'est un rêve, Yves. Sur scène sera installé un plateau de cuisine, 12 participants, des caméras pour suivre la recette en direct, de la musique, de l'improvisation, sous les yeux du public, et une belle table dressée pour le repas final des participants. Pas l'ensemble du public, pensez donc aux 1200 personnes. On ne ferait pas manger pour tout le monde. J'ai déjà approché le maire d'Angers et espère le convaincre lui-même de prendre le tablier comme commis d'un soir. Un rêve un peu fou peut-être, mais de ceux qui semblent m'animer et me pousser à créer des expériences hors normes. Stéphane, j'ai une petite question pour vous. Que pensez-vous de cette question majeure? Retrouver le sens de la joie à table en famille ou entre amis.
Se nourrir soi-même, c'est ce que je retiens. Donc se nourrir soi-même, c'est aller vers soi pour ensuite le partager avec des gens qui se sont nourris eux-mêmes. Donc je suis le premier, je cuisine. J'aime cuisiner avec les gens que j'aime. Donc c'est quelque chose qui m'anime et j'aurais même pu imaginer passer un CAP cuisine. Pour la petite histoire, je peux le dire publiquement, mais j'en ai même parlé à mes enfants, donc c'était quelque chose de très concret. Mais derrière ça, en fait, la résonance que j'ai, qui est très en lien avec les personnes que j'accompagne, soit dans un désert ou dans des salles de formation, c'est qu'en fait, la retraite a été le mot que tu poses, c'est enfer. Je trouve ça fort. Je le suis extrêmement respectueux et bienveillant de ça, et je me dis, mais la vie n'est pas faite de cases. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je vais me nourrir moi-même dans tous mes plans de conscience, conscience mentale, corporelle, émotionnelle et spirituelle, j'ai pas de vide parce que j'ai pas de case et je suis à la rencontre de moi. C'est comme si cette société, d'un moment, on était ci, ça, ça, et à un moment donné, on sort, et quand on sort du système, tout s'écroule. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est ça le message que j'ai envie de passer aussi aux gens que je rencontre, aux jeunes, etc. C'est nourris-toi toi-même. Annick Souzenel l'a fait encore mieux que moi, les Drochefort, c'est va vers toi. Ce titre est merveilleux, c'est un livre à découvrir, à déguster. Mais se nourrir soi-même, mais pas que sur nos plans mentaux, pas que dans nos égos, dans tous nos plans. Et là, en fait, il n'y a plus de cases. Je suis, je vibre et j'incarne ma vie.
Merci beaucoup, chef, pour votre chronique. Et beaucoup de réussite dans ce nouveau projet, surtout.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Allez, il nous reste encore 4 minutes, le temps de poser encore une question, peut-être deux. Quand les participants reviennent, est-ce que c'est pas un peu brutal, justement? On a pas mal évoqué entre les mails, les obligations du quotidien, tout ça. Comment on peut faire pour ne pas perdre trop vite ce que le voyage nous a révélé ou apporté?
Le voyage, il commence au moment où on décide de faire le voyage. C'est le projet, c'est un peu comme en cuisine. Eh bien, on va aller faire le marché, récupérer des aliments et mettre en scène. Donc là, on est exactement sur la même métaphore, c'est qu'il y a un cheminement avant le départ. Après, on va arriver, bah, évidemment, si je prends l'exemple du Maroc sur Marrakech, on va aller rejoindre un espace qui va être l'Atlas, les dunes ou le Djebel Saro. Et là, on va faire un cheminement, on va tranquillement s'éloigner petit à petit de la société. Donc c'est comme un... Et ça fait partie du chemin. Il y a déjà quelque chose qui est sur la route, avec des paysages, avec des couleurs, avec des codes qui changent. Ça va déjà cheminer. Et après, ben, on a la marche en tant que telle, qui elle se terminera aussi. Il nous fera revenir tranquillement en sortie de désert pour retrouver, ben, la ville aux 40 casbahs, puis tranquillement de reprendre la route pour revenir à Marrakech. Donc, moi, j'ai à cœur, en tout cas, d'accompagner en douceur le cheminement, en fait. Et donc, c'est comme un peu ce sachet de thé qui va donner sa meilleure saveur quand c'est le maître du thé, parce qu'on va le mettre à infuser et on va le consommer quand ça sera prêt. Donc si ce n'est pas une parenthèse, et si c'est porté par quelque chose qui vient accueillir la personne comme elle est, eh bien ça se fait en complète douceur.
Ouais, carrément. Merci beaucoup, Stéphane Daguin. Et oui, nous arrivons à la fin de l'émission. Merci d'être venu nous parler donc d'Adventurium dans les Voies de l'Écho. Merci beaucoup, Hervé.
Si, je veux vous dire. Stéphane vient clôturer en fait notre saison.
Oui, bien
c'est
sûr.
C'est la fin, Yves.
C'est la fin de la saison, effectivement. merci d'être venu nous parler donc d'aventure, d'expérience si particulière qu'est le désert. On retiendra effectivement que le désert n'est pas seulement un lieu de sable, de chaleur et d'horizon lointain. C'est aussi un espace où l'on ralentit, où l'on marche, où on l'écoute autrement et où l'on s'écoute autrement. Un espace qui enlève le superflu, qui bouscule parfois, mais qui peut permettre aussi de retrouver une forme de présence à soi, aux autres et au monde. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les propositions de Stéphane Daguin, sur ses voyages, ses accompagnements et la démarche d'Adventurium, je vous invite à retrouver toutes les informations sur adventurium.fr. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. Merci à Alexis Desjeux et Hervé Chéneau pour vos chroniques. Un petit coucou à Anne Texero qui n'a pas pu être avec nous ce matin, enfin ce midi. Merci à l'association Chancon Contre-champ pour la production de cette émission. Retrouvez dès maintenant Fabien Bertrand pour l'émission Les Métiers de l'Ombre. Il reçoit Eva Camus, sociologue chargée de projets en santé communautaire. Retrouvez début juillet une émission spéciale sur les douleurs chroniques que vous pourrez retrouver directement en ligne et en podcast sur les plateformes d'écoute favorites. Bel été à toutes et à tous. Restez au frais, hydratez-vous. Merci d'écouter Radio G et surtout, prenez soin de vous.